bien des prières dans l'Écriture que nous ne faisons pas ou que nous faisons peu. Et c'est très intéressant de se pencher sur toutes ces prières de l'Écriture, prières parfois très courtes, prières parfois plus longues, certaines c'est juste des appels au secours, Pierre est en train d'enfoncer dans l'eau, « Seigneur, secours-moi !» C'est tout, il n'a pas eu le temps de dire plus. Et puis parfois vous avez des prières qui remplissent un chapitre entier, il y a beaucoup, beaucoup. Mais de toute façon, on s'aperçoit que ce n'est jamais, aux yeux de Dieu, ce n'est jamais la quantité qui compte, c'est la qualité, c'est l'état de cœur. C'est l'état du cœur, et c'est à ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas à nos mots, il ne regarde pas à notre éloquence, à la façon dont les choses ont été plus ou moins bien tournées. Dieu ne regarde absolument pas à la longueur. Dieu regarde une chose, il regarde notre cœur, et c'est tout ce qui l'intéresse. Et si ce qui sort de notre bouche est en adéquation avec ce qu'il y a dans notre cœur, même si vos mots ils sont sortis, sera à l'envers, c'est pas grave, le Seigneur il remet tout à l'endroit, il a tout compris, c'est extraordinaire. Alors, dans ces prières que nous ne faisons pas ou peu, on va en revisiter une très célèbre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 5. Et nous allons passer quelques mardis ensemble pour découvrir ou redécouvrir cette fameuse prière qui a été appelée le Notre Père. Une prière qui, bien évidemment, comme toutes les autres prières dans l'Écriture, n'est absolument pas une prière à réciter. Le Seigneur n'a pas donné cela pour que nous le récitions. Dieu n'a que faire de nos récitations et de nos vaines redites. Le Notre Père contient des principes spirituels essentiels qui régissent notre vie de prière et notre relation avec Dieu. Et au travers du Notre Père, Jésus n'a pas voulu donner une prière à réciter bêtement, pardonnez-moi l'expression, ça vous l'aviez très bien compris, mais il met en lumière des grands principes spirituels qui doivent régir notre vie avec lui et notre vie de prière en général. Et je pense que c'est intéressant de se replonger dans cette série de méditations. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, j'insiste, ton Père qui est là dans le secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je crois sincèrement, frères et sœurs, que cette prière, si elle est vraiment bien comprise dans les principes qu'elle contient et mise en pratique, c'est de la dynamite. Et je crois réellement que tout, j'insiste, tout est dans le Notre Père. Et que bien sûr, je le redis, ce n'est pas une prière à réciter, loin de là, mais qu'il y a ici des grands principes que nous devons soit découvrir, soit reconsidérer. Ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit à l'époque de Jésus qu'il y avait déjà des enseignements sur la prière. La prière était déjà monnaie courante. Oui, c'était une habitude. Les juifs priaient, les rabbins enseignaient la prière. Il y avait toutes sortes de liturgies, toutes sortes de litanies, il y avait toutes sortes de prières, il y avait des créneaux horaire au niveau de la prière. Il y avait la prière pour le matin, il y avait une autre prière pour le midi, il y avait une autre prière pour le soir. Et on voit que la vie de prière était déjà largement répandue à l'époque de Jésus. Et quand Jésus arrive, il n'est pas en train d'instaurer la prière. La prière, elle existe déjà. Mais le Seigneur n'a pas dit « si vous priez » ou « si un jour vous priez ». Non, Jésus a dit « lorsque vous priez », verset 5, verset 6, « quand tu pries ». Lorsque tu pries, quand tu pries, parce que c'était une évidence. Et le problème n'est pas que les gens à l'époque de Jésus ne priaient pas. Le problème, c'est qu'ils ne priaient pas avec le bon fondement. Et là, Jésus n'est pas en train d'instaurer la prière. Il est en train de leur faire découvrir vraiment le cœur de la prière et les principes spirituels qui vont régir une vie de prière efficace, épanouie, une vie de prière qui a de la valeur, qui va trouver un écho dans le cœur de Dieu, mais aussi une prière qui va avoir de l'efficacité et qui va avoir du résultat dans mon cœur, dans ma vie et aussi autour de moi. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faudrait considérer, mais ce qui va d'abord m'interpeller, le fondement par excellence du Notre Père, c'est justement la révélation du Père. Jésus n'a pas dit « voici comment vous devez prier ». Jésus a dit « voici donc comment vous devez prier ». Il y a un lien de cause à effet entre le Notre Père et ce qu'il vient de dire avant. Ça s'appelle une conjonction de coordination. Ça relie deux pensées. « Voici donc comment vous devez prier ». Et ce qu'il y a juste avant le verset 9, c'est au verset 8 « ne ressemblez pas aux païens qui multiplient des paroles en s'imaginant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Car, et ce qui va mettre un terme, ce qui va mettre un point de rupture, ce qui va délivrer les gens de la litanie des vaines redites inefficaces, fatigantes, décourageantes, sans effet, sans résultat, c'est la révélation de Dieu, le Père. Et Jésus ici, dans le « Notre Père », amène réellement une révélation nouvelle. Il n'institue pas la prière. Il est en train d'amener la révélation du Père, le véritable fondement qui va enfin permettre aux gens de sortir de cette vie de prière terne, routinière, monotone, parce que les gens prient, ils prient le matin, ils prient le midi, ils prient le soir, ils prient à la synagogue, et il ne se passe rien. Il prie, et c'est le désert total. Mais les disciples, eux, si vous lisez l'évangile de Luc, à un moment, les disciples ont compris, en voyant tous ces moments où Jésus n'était pas avec eux, tous ces moments où Jésus se retirait dans les déserts, tôt le matin, tard le soir, la nuit. Et les disciples comprennent bien, ils ne sont pas avec lui. Ils ne savent pas ce qui se passe quand Jésus est seul à ce moment-là. Ils ne l'entendent pas prier. Mais ils savent qu'il prie et ils savent qu'il a une communion avec Dieu. Et ils ont compris, ils ont fait le lien de cause à effet entre la vie secrète de Jésus et l'efficacité de sa vie publique. Et les disciples ne savent pas ce que Jésus dit dans le secret. Ils ne savent pas ce qui se passe concrètement quand Jésus est seul à l'écart, quel que soit le créneau horaire, quel que soit le lieu. Les disciples ont déjà constaté que la prière, ce n'est pas une histoire de créneau horaire, que ce n'est pas une histoire de lieu. Mais ils ont compris qu'il y a un lien étroit entre ce qui se passe dans le secret et ensuite ce qui se passe en public. Et c'est là que dans l'évangile de Luc, ils en arrivent un jour à dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». On aimerait avoir cette vie que tu as. On aimerait, Seigneur, avoir cette efficacité. Et ici, Jésus leur dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce n'est pas à force de multiplier des paroles que vous allez être exaucés. Parce que, et ce qui va mettre un terme à cette vie litanique, religieuse, monotone, terne, pénible, inefficace, sans résultat, c'est cette révélation, et à un moment, Jésus va vraiment instaurer le « Notre Père ». Et là, Jésus apporte, là, j'insiste sur le mot, la révélation du Père. On n'avait jamais eu ce genre de révélation. Vous n'aurez plus besoin de multiplier de vaines paroles parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui ayez demandé. Voici donc, par conséquent, puisque vous avez un Père dans le ciel, et il faut commencer par là, le Notre Père, si je n'ai pas la révélation du Père, il ne sert à rien du tout. C'est une prière que je vais réciter comme les autres. Frères et sœurs, je me permets de dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore réellement saisi que Dieu est leur Père. Peu de chrétiens se permettent dans la prière d'appeler Dieu Papa. On l'appelle Seigneur, souvent, c'est la formule consacrée. Seigneur, on l'appelle Jésus, on le nomme de différentes façons. On l'appelle par ses différents noms, qui sont tous vrais, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de faux. Mais on reste quand même sur une certaine distance. On appelle Dieu par tous ses noms, mais c'est très rare qu'on entende des chrétiens dire « Papa ». C'est très rare qu'on entende des chrétiens dire « Père, je te prie que ». Ça m'est déjà arrivé même que des chrétiens me disent « Stéphane, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je n'ai jamais réussi à appeler Dieu mon Père. » Il y a des chrétiens qui me l'ont avoué, qui m'ont dit « C'est plus fort que moi. Je ne peux pas, je n'arrive pas à appeler Dieu mon Père. J'ai l'impression que je vais trop loin, que je vais m'octroyer un droit, un passe-droit, ou que je vais en faire trop, je vais aller trop loin. Je n'ai jamais appelé Dieu Papa. Je n'ai jamais appelé Dieu Père. Je l'appelle mon Seigneur. Il l'est. Amen. Je peux l'appeler mon Dieu. Il l'est. Amen. Je peux l'appeler Seigneur, Sauveur, Jésus. Il l'est. Amen. Mais très souvent, même si nos prières de cœur sont sincères, évidemment, très souvent, il y a encore des leitmotifs. Dans la mienne aussi, hein, je ne vous raconte pas d'histoire. Des leitmotifs. Et Seigneur par-ci, Seigneur par-là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Puis un jour, Jésus dit avec tout son amour, mais en vérité, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. On verra un peu plus tard que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça m'engage. Alors, on a besoin de cette révélation du Père. Ce qui est intéressant, c'est lorsque Jésus dit « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Vain, c'est très simple à définir. Ce qui est vain, c'est ce qui est sans fondement. Une chose vaine, une chose qui est inutile. Pourquoi est-ce qu'elle est inutile ? Parce qu'elle n'a pas de fondement. Parce qu'elle n'a pas de valeur ou parce qu'elle n'a pas de résultat. Vous ouvrez un dictionnaire, vous cherchez le mot vain, V-A-I-N. Une chose vaine, c'est une chose qui n'a pas d'utilité parce qu'elle n'a ni fondement, ni valeur, ni résultat. Le fondement de la prière, c'est Dieu le Père, Dieu mon Père. Et là, Jésus est en train de dire, déjà avant, mais aussi dans Notre Père, il est en train de dire, il ne suffit pas de prier. Tout le monde prie. Tout le monde prie comme il veut, comme il peut. Mais Jésus donne des instructions précises. Il n'a pas dit « voici comment vous pouvez prier ». Il a dit « voici comment vous devez prier ». Et Jésus va commencer à cibler, à être beaucoup plus directif et plus incisif, non pas pour nous impressionner, nous reprendre, hausser le ton. Non, non, il va être insistant pour nous pousser dans une dimension d'intimité plus proche avec Dieu. Il ne suffit pas de prier, tout le monde prie. Jésus ici est en train de, non pas d'instituer, mais de recentrer la prière. Il place un nouveau fondement. Les Hébreux priait bel et bien Yahvé, il priait bien le Dieu de l'Ancien Testament, il l'appelait bien par son nom, il ne se trompait pas de nom, mais dans cette ère nouvelle de la grâce, quand Jésus vient, c'est cette, non seulement une ère nouvelle, mais cette révolution de la grâce, il va falloir un nouveau fondement, et le fondement avec un F majuscule, le fondement par excellence, celui que Dieu a toujours voulu, celui auquel nous devons arriver, c'est que Dieu est mon père. Dieu est mon papa. C'est fini, le Dieu tonitruant, le Dieu qui disait à Moïse, quand il était au Sinaï, si jamais une bête s'approche de la montagne, il faudra la lapider. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, même dans la Nouvelle Alliance, vivent encore avec ce Dieu qui est quand même franchement distant. Alors, Dieu est-il redoutable ? Oui, il l'est, sérieusement. Faut-il le craindre au sens de le respecter profondément ? Ah oui, ça on ne va pas jouer avec Dieu. Dieu n'est pas mon copain, c'est pas mon ami au sens de copain. Jésus a dit « vous êtes mes amis », on parle d'intimité, de filiation. Mais Dieu n'est pas mon copain, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas de manque de respect. Oui, il est redoutable. Oui, il est infiniment grand. Oui, il est infiniment puissant. Oui, c'est vrai qu'un seul claquement de doigts, un seul souffle de sa bouche, je serais totalement terrassé. Oui, c'est vrai, Dieu est extraordinairement grand, redoutable, infini, puissant. Et quelque part, ben, c'est ça qui est miraculeux en soi. C'est que ce Dieu qui soit naturellement si grand, donc si inaccessible, se rendre aussi accessible et qu'il me dise « Non, je ne veux pas être un Dieu lointain, je ne veux pas être seulement Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit, je ne suis pas seulement Yahvé Nissi, l'éternel tabanière, je ne suis pas seulement Yahvé Rapha, le Dieu qui te guérit. » Ce Dieu qui est aussi grand et aussi redoutable, c'est ton papa. « Ouais, mon papa, c'est le plus fort du coup. » C'est super, non ? Mon papa, c'est le plus fort. Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent dans la cour de récréation aux autres copains ? Ils disent, mon papa, c'est le plus fort, tu vas voir. Ben moi, je dis avec beaucoup d'assurance, mon papa, c'est le plus fort. Alors c'est fini ce Dieu qui est foudroyant, tonitruant, redoutable, même s'il l'est encore. Mais Dieu est mon père. Et l'esprit de Dieu, en moi, dit Paul, il ne crie pas « Yahvé Jiré, Yahvé Nissi, Yahvé Rapha ». Non, il crie « Abba, Père ». Une dimension d'intimité, beaucoup plus proche, beaucoup plus intime. Je peux m'approcher au plus près de lui. « Abba, Père », le Saint-Esprit me révèle que je suis enfant de Dieu. Je suis son fils, je suis sa fille. Le plus légitimement du monde, il est mon papa. Je sais que, même, je vous le dis, ça me dépasse ce que je prêche, mais dans mon cœur, c'est gravé, c'est non négociable. La première chose que le Seigneur m'a re-révélée, ou révélée parce que je pense que j'étais pas au clair, la nuit... Le 1er novembre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2006, quand après plusieurs jours de recherche de la face de Dieu, j'ai vraiment été visité, j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai passé une grande partie de la nuit à parler en langue et je suis resté plusieurs jours comme ça devant Dieu, la première pensée forte spirituelle qui est montée à mon cœur, c'est que Dieu était mon Père. La première chose que l'Esprit m'a révélée dans ces moments-là, il ne m'a pas dit « tu feras des miracles », il ne m'a pas dit « tu prêcheras ma parole », il ne m'a pas dit « non ». Il y avait cette assurance nouvelle, c'est pas une information dans ma tête, c'était dans ma tête. Mais un jour, par le Saint-Esprit, c'était une révélation de cœur. Et quand c'est une révélation de cœur, ça devient tellement réel que ça en est presque palpable. Dieu est mon Père. Il ne m'abandonnera jamais, il ne me corrigera jamais pour rien, il ne va jamais m'abandonner, il sera toujours là quand j'aurai besoin de lui, il sera toujours là pour me protéger, il sera toujours là pour me défendre. Avoir un père, ça évoque une relation d'amour puissante, intense. J'ai réalisé à quel point j'étais aimé de Dieu. C'est une relation d'amour. Avoir un père, Ça signifie aussi une dimension de sécurité. Le père, ça évoque aussi la prévoyance. Enfin, si vous êtes des papas à peu près normaux, vous avez prévenu l'avenir de vos enfants. Vous avez mis ce qu'il fallait de côté pour eux. D'accord ? Et vous vous êtes peut-être même saigné aux quatre veines. Et même alors qu'ils sont mariés et majeurs, j'en connais plusieurs ici, ils sont encore en train de se saigner aux quatre veines pour leurs enfants. Parce qu'être un père, ça évoque de la prévoyance, ça évoque de l'attention, ça évoque une relation privilégiée d'amour, ça évoque une relation de protection, une sécurité. Plus de 180 fois, je pense 185 fois dans les évangiles, il est fait référence non pas à Yahvé Jiré, mais à mon Père. Mon Père, notre Père, Dieu le Père, revient au moins 180 fois, rien que dans les évangiles. Il y a une dimension nouvelle, une révélation de la grâce. Je crois que beaucoup de frères et sœurs ne sont pas encore vraiment entrés dans cette dimension d'intimité et n'ont peut-être pas encore vraiment compris quelle est cette révélation, cette révolution de la grâce. On peut être encore bloqué, on peut être encore gêné par cette proximité. On n'ose pas, comme si c'était déplacé, comme si c'était indécent. Mais on a gardé, je m'excuse, on a gardé une mauvaise image de Dieu. Non, pardon, peut-être pas qu'elle soit mauvaise, parce que c'est la révélation de l'Ancien Testament, mais au sens qu'elle est incomplète. D'accord ? On n'a pas été jusqu'au bout de la révélation. Alors on prie, oui, mais on prie toujours l'Éternel. On prie toujours le Seigneur grand et redoutable. Certains, combien de fois j'ai entendu prier l'Éternel des armées, enfin pas ici, heureusement, enfin des titres pompeux, ronflants, etc. Alors oui, il l'est. Oui, je vous l'ai dit, je le révère, je l'adore, je suis sérieux avec lui. Dieu n'est pas mon copain, mais il veut être mon père. Et quand mes enfants, parfois à la maison, étaient un peu trop loin ou étaient déplacés, je leur ai dit, eh oh, tu parles pas comme ça à maman, c'est pas ta copine, c'est ta maman. Tu ne me parles pas comme ça, je suis ton papa. D'accord ? Mais bien sûr, il y avait cette dimension. Mais quand mes enfants s'adressaient à moi quand j'étais dans la police, ils ne m'appelaient pas par mon grade. Sous-brigadier, s'il vous plaît, est-ce que... Parce que moi, vous savez, dans la police, je n'ai pas été bien haut. Hein. J'étais tellement feignant, les examens, il ne fallait pas m'en parler. Moi, j'aimais bien la pratique et le terrain. Alors, il ne fallait pas me parler d'hiérarchie, tout ça. J'étais anti-hiérarchie. Et bien, quand je rentrais à la maison, mes parents me disaient... Mes enfants... ne me disait pas, sous-brigadier, est-ce qu'on peut aller à Euro Disney pendant les vacances ? Non, il m'appelait papa. Est-ce que je suis sous-brigadier de police ? Ben oui, je l'étais, bien sûr je l'étais, mais il m'appelait papa. Si votre papa est directeur de banque, quand vous rentrez à la maison, jamais vous allez appeler votre papa, monsieur le directeur, vous diriez, mais il est complètement tapé ce gamin. Non, et vous l'avez appelé papa, d'où le privilège, parce que tous les autres l'appelaient le monsieur le directeur. Tous les autres m'appelaient monsieur l'agent, des gens qui ne me connaissent pas m'appellent monsieur le pasteur, vous, comme on se connaît bien, j'y tiens beaucoup, vous m'appelez Stéphane, on se tutoie, mais qu'il n'y en ait pas un ici qui m'appelle papa, hein. C'est hors de question. Parce que c'est un privilège qui est réservé que à mes enfants. Donc vous comprenez qu'on arrive dans une dimension de proximité, là c'est pas Stéphane, et c'est même pas suffisant de se tutoyer. Non, mes enfants, ils m'appellent papa. Et mes enfants, ils viennent dans mes bras. Je vous aime tous, mais je ne vais pas tous vous prendre dans mes bras, ça va faire lourd. Hein. Mais vous comprenez que du coup, il y a une dimension de proximité et d'intimité que beaucoup de chrétiens n'ont pas saisie. Et quand ils prient, ils sont encore devant un Dieu qui est là, au top du Sinaï, mais ils n'ont pas sauté dans les bras de leur Papa Céleste, en se disant, mais à quel point il m'aime ? Mais à quel point il a pourvu à tout, il a tout prévu, il me protège, ma sécurité, mon avenir est dans ses mains, mon avenir est assuré. C'est pour ça que la prière du Notre Père n'est pas dure lorsque Jésus dit « Souciez-vous d'abord, je paraphrase, souciez-vous d'abord du nom de Dieu. » Parce que j'ai un Père, parce que tout est prévu. Amour, protection, prévoyance, assurance, sécurité, intimité, tout est prévu. Donc, je ne viens pas en enfant égocentrique avec ma liste de besoins, mais quand je viens d'abord rencontrer mon Papa Céleste, Amen, d'accord. Je viens rencontrer mon papa. Et la prière devient un moment, non pas où je vais tirer Dieu vers moi, mais où moi, je vais, dans un élan d'amour, de réponse, m'élever, élever mon âme vers lui à sa rencontre, et je viens rencontrer mon papa céleste. Et je peux me préoccuper largement d'abord de lui, parce que pour moi, si j'ai une connaissance intellectuelle du Père, je ne suis pas rassuré sur mon avenir et sur la provision de mes besoins. D'accord ? Mais si j'ai une révélation de mon papa céleste, ben, je ne suis pas inquiet. C'est dans mon cœur. Je suis sûr de lui. Ben, je peux m'occuper de lui d'abord. Et je ne viens pas pour moi. Vous avez compris ? Et du coup, vous comprenez comment ce simple mot, qui n'est pas un mot, mais qui est toute une révélation, qui est toute une dimension, une façon de vivre, va révolutionner ma conception de la prière et mon approche de la prière. Et ma prière, du coup, si j'ai la révélation du Père, c'est ce que Jésus a fait. Il a apporté d'abord la révélation du Père. Si j'ai la révélation du Père, je suis en pleine sécurité. Je suis entré dans cette dimension par la foi. Ma prière n'est plus vaine. Elle n'est plus inutile, elle n'est pas dénuée de fondement, elle n'est plus sans valeur, elle n'est plus sans résultat. Parce que étant apaisé dans mon âme, je vais pouvoir prier dans les directions que Dieu me montre. Ton nom, ton règne, ta volonté. Et pour ce qui concerne mes besoins physiques, matériels, humains, terrestres, notre pain quotidien, ça vient en quatrième lieu. Il y a aussi mes besoins spirituels, ça vient ensuite. On expliquera aussi, vous allez voir, c'est très simple, c'est même pas compliqué en vérité, ce fameux « ne nous induit pas en tentation », c'est en réalité c'est simple, on verra ça plus tard. Mais vous voyez qu'il y a six grandes phrases, six grandes directions, six grands principes qui vont régir ma vie de prière. Et puis cette conclusion magistrale, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles l'honneur, la gloire, la puissance et la force. Mais on ne peut pas trouver de véritable efficacité et une authentique assurance dans la prière si on n'a pas déjà reçu la révélation que Dieu est mon Père et que Dieu est mon Papa. Et ce n'est pas une option. Voici comment vous devez prier. Dites, c'est des impératifs, vous devez prier. Dites notre Père.